Monseigneur Armand de Bourgeois est évêque d'Autun. Autun, ou Châlons, ou Mâcon, enfin, c'est un évêque qui a la chance d'avoir trois cathédrales.
Oui.
Dans une région au centre de la France, à peu près au centre de la France, qu'on appelle la Saône-et-Loire, qui est une région qui plaît beaucoup aux Québécois parce que on y cultive la vigne, on y cultive le vin de Bourgogne. On ignore peut-être cependant que cette région, c'est aussi une région industrielle, la région, une région minière, une région d'entreprise importante. Donc, Monseigneur Le Bourgeois est évêque de ce diocèse depuis 17 ans. Auparavant, il avait été supérieur général des pères eudistes, et à ce titre, il est venu plusieurs fois au Canada. Il a même prêché le carême à Notre-Dame de Montréal. Monseigneur Le Bourgeois est connu, surtout peut-être dans les milieux spécialisés, par le fait qu'il s'intéresse particulièrement au problème des divorcés catholiques. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse au problème de l'écuménisme, du fait, sans aucun doute, qu'il a dans son diocèse ce fameux monastère protestant de Thésée, qui compte cependant aussi des moines catholiques. Et dans ce diocèse d'Autun, il y a aussi un monastère bouddhiste. Alors voilà donc un milieu très composite, Monseigneur, très composite, mais carrément, je pense que la question qui nous préoccupe, c'est cette question de ces hommes, de ces femmes qui sont catholiques, qui veulent rester croyants, qui veulent rester dans le corps de l'Église, mais que la législation ecclésiastique semble toujours vouloir maintenir à l'écart des sacrements. Et j'ose vous dire que pour beaucoup de chrétiens, même pour ceux qui ne sont pas divorcés, mais qui savent peut-être que ça pourrait leur arriver,
oui,
qu'il s'agit là d'un scandale. Comment vous réagissez à ce scandale?
Bon, je réagis d'abord en étant extrêmement sensible aux appels au secours que j'ai pu entendre et qui ont d'ailleurs déterminé les positions que nous avons essayé de prendre. Et je tiens à dire tout de suite que nous avons essayé de prendre en église diocésaine. Je n'ai jamais agi seul, mais toujours en lien avec l'ensemble des prêtres et puis les laïcs qui sont davantage préoccupés de la pastorale familiale. J'ai entendu vraiment un cri d'un appel au secours, si vous voulez. C'est ça qui m'a motivé au point de départ. Alors, ça a revêtu des formes assez diverses. Dans un premier temps, il s'agissait surtout d'accepter à la sépulture religieuse des divorcés mariés qui en étaient écartés. Ça peut paraître paradoxal. Et j'ai trouvé des personnes qui avaient vraiment servi l'Église pendant des années et que leur situation empêchait de pénétrer dans cette Église pour y recevoir la dernière prière, alors que pendant des années, ils y avaient servi. Ça a été le point de départ, bon. Et ceci avait produit chez moi-même, chez mes collaborateurs, une sensibilisation plus grande aux problèmes plus larges que vous venez d'évoquer, des situations de gens qui sont vivants et dans l'état de divorcer. Problème pas très simple, parce que quand vous parlez discipline de l'Église, c'est vrai, je voudrais quand même apporter une nuance, l'Église se base sur quelque chose d'assez profond, de pas très facile à saisir pour le commun des chrétiens, je l'admets. Elle nous dit que le mariage est un sacrement qui veut être un signe, un symbole, je ne sais quel mot employer, de cet amour de Dieu pour son peuple et un amour qui est sans coupure, sans fêlure. Et le jour où l'amour humain de deux époux mariés religieusement n'existe plus, ce signe d'une certaine manière est rompu.
Mais Monseigneur, à moins que je me trompe, n'est-ce pas, cette discipline, elle est propre à l'Église catholique romaine latine. Je crois que chez les orthodoxes, il y a beaucoup plus de tolérance à l'égard du divorce.
Oui et non. Il y a une pratique pastorale différente, si on peut employer ce mot. Je veux dire par là que devant un échec, nous constatons que des couples ont échoué. L'Église orthodoxe reconnaît cet échec, essaye, si je peux employer le mot, de le gérer avec le couple, en permettant à l'époux divorcé de reconstituer un nouveau couple, en le recevant en Église, sans qu'il y ait un véritable sacrement de mariage de nouveau, mais il y a une sorte de réintégration quand même dans la communauté chrétienne. Et j'avoue que personnellement, c'est dans cette ligne que j'aimerais que l'Église catholique poursuive sa recherche.
Ça voudrait dire quoi concrètement?
Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que devant un couple qui a échoué, il faudrait examiner chaque cas, parce que, vous le savez fort bien, les cas de divorce sont quand même extrêmement différents les uns des autres.
Et de plus en plus nombreux.
De plus en plus nombreux, chez vous comme chez nous et ailleurs. Et qu'on puisse à ce moment-là dire, vous avez échoué, bon, Nous constatons peut-être vos torts à l'un et à l'autre, mais devant Dieu, nous en demandons pardon, car il y a aussi cette nuance quand même. Un échec n'est pas purement fortuit.
Justement, pourquoi cet échec est-il si grave? Je veux bien admettre le principe que vous m'avez dit au début de cette rencontre, n'est-ce pas? Savoir que l'union de l'homme et de la femme est symbole de ce don absolu. Je veux bien admettre ça. Mais enfin, toute notre vie chrétienne, toute la vie des chrétiens est quand même marquée par des échecs. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, est-il dit dans l'Évangile, mais c'est un but à atteindre.
Absolument.
Et si nous étions si parfaits, il n'y aurait pas le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, le sacrement de la pénitence. Pourquoi, tout à coup, devant cet échec, y a-t-il cette dureté? Est-ce que ce n'est pas la dureté quand même d'hommes qui sont voués au célibat, Et qui sont finalement très loin de ce que peut être la vie conjugale?
Je ne pense pas que ce soit dû, si vous voulez, à la qualité de célibataire et à la qualité masculine, parce que c'est quand même toute l'histoire de l'Église est là pour montrer qu'elle a toujours agi dans ce sens-là, et il n'y a pas eu toujours que des prêtres et que des hommes à comprendre cette manière d'agir. Ça a pu influencer, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je repars de la question que vous me posiez. Personnellement, je souhaite que soit revue cette manière de faire. Et je le répète, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des solutions à chercher un peu dans la ligne de l'Église orthodoxe, surtout si on note, et je crois que c'est important, que l'Église d'Orient, disons, pour faire court, a connu cette pratique depuis toujours, et que pendant des siècles, elle était quand même unie à l'Église de Rome, qu'il y a eu de temps en temps des séparations et ensuite des réconciliations, mais que jamais l'Église de Rome ne l'a attaqué sur ce point. Donc, elle reconnaissait comme valable cette coutume. C'est pour ça que je souhaiterais que de ce côté-là soit cherché peut-être une amélioration, une solution.
Mais j'attaque toujours, Monseigneur, parce que vous êtes évêque et comme tel, vous m'apparaissez lié à l'institution, n'est-ce pas, à l'institution ecclésiastique, et je vais vous dire une chose que je dis rarement. De toute façon, c'est écrit à la fin de l'émission, je suis prêtre. Je suis prêtre et j'ai pu mettre 4 ans à réfléchir à l'option définitive que j'allais faire. Vous savez très bien que de nombreux mariages ne sont contractés, non pas après 4 ans de réflexion et d'épreuves, de l'épreuve que peut constituer la vie d'un séminaire. Et pourquoi est-on, semble-t-il, en tout cas dans l'institution ecclésiastique, plus large et moins sévère à l'égard de prêtres, parfois même de prêtres qui ont dû faire un long apprentissage de noviciat, que leur permettons de rompre les vœux qu'ils ont contractés, et ne permettons pas à des hommes et des femmes qui souvent se sont unis sous le coup de la passion, de repenser un engagement qui a été souvent fait à l'aveugle.
Ben alors, il y a beaucoup de choses dans vos propos. Je voudrais dire que premièrement, il faudrait effectivement qu'il y ait une préparation au mariage beaucoup plus soignée qu'elle ne l'est d'habitude. Et je crois que là, non seulement des prêtres, mais des couples chrétiens peuvent jouer un rôle important pour aider des jeunes à réfléchir un peu à ce que représente pour eux le mariage qu'ils désirent contracter. Ça me paraît une première chose extrêmement importante. Il faudrait aussi un soutien des jeunes couples. Moi, personnellement, j'insiste beaucoup dans cette pastorale des divorcés mariés et que d'autres couples soient attentifs, puissent partager avec eux, puissent les aider dans les moments de difficulté. Qu'il y ait, autrement dit, un dialogue un peu constant. Certains l'acceptent, d'autres, j'en conviens, ne l'acceptent pas, c'est exact. Maintenant, parler d'un mariage à l'essai, alors ça me paraît quand même un petit peu délicat. Au moins dans notre contexte occidental et dans nos mœurs actuelles, et dans notre législation actuelle en plus. J'entends même la législation civile. Mais alors, je ne mets pas d'équivalence, comme vous semblez la mettre, entre l'engagement que prend un prêtre ou un religieux, et parce qu'il est seul en cause, avec Dieu, et l'engagement que prennent deux époux.
Seul en cause, mais face aussi à une église.
Oui.
Face à une communauté.
Oui.
Et vous savez très bien que ça a été un grand scandale, le départ de certains prêtres.
D'accord, oui.
Et je trouve que, d'une certaine façon, c'est plus scandaleux que le scandale d'un... qui constitue l'échec d'un couple.
D'une certaine façon, peut-être, oui. Mais pour revenir aussi à votre question, vous n'ignorez pas qu'à l'heure actuelle, depuis longtemps, mais plus facilement aujourd'hui, l'Église, se penchant sur le cas d'un mariage déjà contracté, reconnaît que le consentement n'a pas été donné d'une manière telle qu'il soit vraiment un consentement au mariage. Comme vous dites, il peut y avoir la pression de la passion, des parents, il peut y avoir l'angoisse d'un enfant qui va naître. Dans tous ces cas, l'Église, à l'heure actuelle, se montre quand même beaucoup plus ouverte, si vous voulez.
Plus libérale,
beaucoup
peut-être.
Plus libérale.
Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure, Monseigneur, et ça m'a semblé important, je voudrais y revenir, que vous avez pris les positions que vous avez prises, vous ne les avez pas prises seules.
Oui, c'est exact.
Vous les avez prises avec des chrétiens,
oui.
Des hommes et des femmes engagés. Qu'est-ce que signifie pour vous ce dialogue avec ces chrétiens ou avec ces autres prêtres avec qui vous partagez la responsabilité pastorale?
Alors, si vous le voulez, puisque c'est un peu le but tout de même de des questions que vous me posez, j'aimerais vous dire quel dispositif pastoral nous avons adopté. Finalement,
oui.
C'est ça, au fond, qui intéresse, je crois.
Il
nous a semblé qu'il y avait, dans les requêtes que nous entendions, des divorcés mariés ou qui allaient se remarier. Deux requêtes principales. La première était celle d'un certain accueil de la part de l'Église au moment d'un nouveau mariage. D'un nouveau mariage qui, au moins dans le contexte français, est un mariage civil devant les représentants de l'État. Dans la mesure où l'Église catholique et l'Église orthodoxe, d'ailleurs, ne renouvellent pas le sacrement de mariage, est-ce qu'il n'est pas possible, au moins, d'accompagner d'une prière ceux qui le souhaitent, tous ne le demandent pas, bien sûr. C'est la première chose que nous avons essayé de faire, en demandant que si un couple qui a divorcé ou qui va divorcer se présente, le prêtre ait avec eux d'abord un entretien pastoral et qui s'efforce de faire le point, même sur le passé, parce que dans la mesure où il y a déjà eu une vie de couple, cet homme ou cette femme qui pense à contracter un deuxième mariage, quelle est leur attitude à l'égard du premier conjoint? Je parle pour la France, beaucoup d'hommes, par exemple, refusent de payer ce qu'on appelle la pension alimentaire pour le soutien de la femme qui reste seule. Alors, est-ce que mon rôle, moi, de prêtre à qui on pose la question, est-ce que ce n'est pas d'abord de rappeler les obligations qui ne sont pas remplies, de dire, écoutez, si vous êtes chrétien, il y a d'abord ça à faire. Il y aura le reste aussi, mais il y a ça. Les enfants, quelle attitude vis-à-vis d'eux, s'il y a eu des enfants de premier mariage? Le sens d'un engagement. Bon, le premier, vous ne l'avez pas tenu. Vous avez peut-être beaucoup d'excuses, mais est-ce que vous réalisez que cette fois-ci, vous voulez en faire un second? Bon, on peut y penser, d'accord. Mais quel poids lui donnez-vous? Vous voyez, tout un entretien qui me paraît très important.
Et très profond, très exigeant. Il n'y a pas de condescendance.
Pas du tout. Si possible, avec des couples, d'ailleurs. Et puis alors, un accueil discret, pour ne pas donner le change quand même, surtout à la communauté chrétienne, mais un accueil qui soit un accueil de l'Église, ouverte, accueillante, à ceux qui justement ont échoué une fois, mais qui veulent essayer de se reprendre et de faire autre chose de neuf et peut-être de mieux construit.
Est-ce que cet accueil va jusqu'à les accueillir à la table eucharistique, au sacrement de l'Eucharistie?
C'est le deuxième volet, si vous voulez, de ce que nous avons considéré du point de vue pastoral. C'est un fait qu'à l'heure actuelle, donc, l'Église demande de ne pas les recevoir à l'Eucharistie. Et elle consent à une exception, qui paraît assez peu conforme au style de vie d'aujourd'hui et même à la consistance d'un couple. Ça consisterait à vivre en frères et sœurs. Ce qui, avons-le, est souvent un peu chimérique. Hein.
Qui fait un peu sourire.
Ça fait un peu sourire, je vous l'accorde.
Parce que si on se marie, c'est quand même pas pour vivre en frère et sœur.
Et puis d'autre part, est-ce qu'on ne risque pas de nuire à l'équilibre du couple, à l'éducation des enfants? Enfin, c'est toute une série de problèmes qui sont soulevés. Je souhaite pour ma part, mais là, vous savez, je formule des vœux à titre absolument personnel. Hein. Je n'entends pas du tout.
J'y reviendrai justement sur ce que vous venez de dire là.
Ça me paraît très important. Je prends mes responsabilités chez moi, je les prends ferme. Mais je n'entends pas, moi tout seul, modifier la législation de l'Église. Je m'en expliquerai plus si vous le souhaitez. Concrètement, je souhaite pour ma part que on puisse, dans ce dialogue qui conduira à la communion sacramentelle, à l'Eucharistie, donner d'autres critères, d'autres manières de juger la situation. Je reviens un peu à ce que je disais tout de suite. Quelle a été votre attitude à l'égard d'un premier conjoint et des enfants éventuels? Depuis votre second mariage, est-ce que vous avez quand même montré une certaine fidélité dans la durée? Oui. Par exemple, il m'est arrivé, de très gentiment, aussi fraternellement que possible, de dire à un couple qui venait de divorcer, de se remarier, de dire, Écoutez, pour l'Eucharistie, attendons un peu. Est-ce que de nouveau vous serez fidèle? Quand vous me direz que c'est bien embarqué, ben on en reparlera. Il faut le dire avec beaucoup d'affection fraternelle, mais je crois qu'il faut le dire. Et puis alors, j'attache beaucoup d'importance pour ma part à des cas de situation irréversible. Voilà un deuxième foyer qui existe depuis un temps plus ou moins long. Il y a des enfants dont on assure aussi bien que possible l'éducation. Il n'est pas question de revenir en arrière. Alors va-t-on laisser ces gens, justement, sur cette espèce de fin de l'Eucharistie, quelques-uns expriment d'une manière très, très émouvante dans des lettres que j'ai reçues. Alors c'est là, je pense, que on peut à ce moment-là recevoir ces divorcés remariés.
Je voudrais justement revenir à ce moment-ci sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est une position que j'ai prise dans mon diocèse. Je n'ai pas l'intention de faire la loi dans l'Église universelle. Justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu isolé? Est-ce que vous ne vous sentez pas seul? Et est-ce que vous n'avez pas été attaqué peut-être parfois pour les positions que vous avez prises?
Alors je vous dirais que j'ai été attaqué, bien sûr, par un certain nombre de chrétiens très conservateurs, par aussi des chrétiens qui ont été au moins surpris, si vous voulez, des chrétiens convaincus, sérieux, mais qui se disaient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je comprends bien qu'on pose des questions, je le reçois très bien. Je peux dire en second lieu que cette pratique que nous avons essayé d'instaurer et de vivre au jour le jour, vous voyez, sans laisser les choses se faire n'importe comment, mais en essayant d'être présent chaque fois qu'il y a une raison valable de l'être. Cette pratique existe pour la France, au moins dans d'autres diocèses aussi. Je ne prétends pas du tout que nous soyons les seuls. Ce qui me paraît important, c'est que nous l'avons fait officiellement. Dans bien des cas, c'est une pratique un peu clandestine. On dira au prêtre, bon, après tout, si vous le jugez bon, recevez ces divorcés remariés à la communion, mais ne le dites pas. Nous avons pris un peu l'attitude inverse, de le dire très clair et d'une manière un peu officielle.
Et pour quelle raison?
Parce que j'aime pas ce qui est clandestin. J'aime pas ça. L'Évangile est l'Évangile.
Vous préférez créer un scandale, même si on a dit malheureux celui par qui le scandale arrive.
Oui, mais attendons-nous. Moi, je préfère créer ce type de scandale, parce que je ne crois pas que ce soit un scandale si on réfléchit en profondeur. Et d'autre part, alors là, c'est ma conception de mon rôle d'évêque. Je pense que mon rôle est de recevoir ce que me dit mon Église, de vivre à la lumière de l'Évangile ces cas d'exception que je crois très importants, d'insister aussi pour que l'Église se penche davantage sur ces problèmes. Vous voyez, l'évêque est à la fois responsable de son Église locale et en même temps partie prenante de la vie de toute l'Église. Et son action, à mon avis, doit s'exercer par des appels très pressants pour que, au besoin, d'autres aussi s'interrogent sur ces questions très graves et que peut-être l'Église soit amenée à modifier sa position.
Vous dites une chose qui me semble extrêmement intéressante et un peu étonnante. Si je comprends bien, comme évêque, vous ne vous définissez pas simplement comme, pas seulement l'expression, mais une courroie de transmission entre le Vatican et la région d'Autun.
Je m'y refuse absolument. Je suis évêque à plein, je suis responsable d'une église locale, et dans le domaine de la foi, dans le domaine du comportement moral, c'est je prends ma responsabilité, pas seul, je le répète très fort. Et en même temps, j'estime que, en tant que participant à cette église locale, étant en lien avec d'autres églises locales et en communion avec l'église de Rome, j'estime que j'ai à faire entendre ma voix quand une situation me paraît importante, grave, et qu'elle mérite d'être considérée.
Ça m'amène un peu en deux ou trois minutes, parce que le temps s'écoule, hélas, n'est-ce pas, à justement vous poser ce problème de l'écuménisme. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, vous, pour vous, qui quelque chose, que de créer cette église à partir d'une église locale qui soit aussi une église universelle, n'est-ce pas, compte tenu que vous avez dans votre diocèse des gens qui sont des protestants, et en particulier ces moines de Thésée?
Oui. Quand nous disons écuménisme, le mot est toujours un petit peu barbare. Au fond, ça veut dire la recherche de l'unité entre tous les chrétiens.
Et qu'on trouve un peu passé de mode, si on dit pourquoi nous parler encore de ça,
hein? Ouais, parce que je crois que c'est quand même très important que l'on continue de cheminer, si vous voulez, dans cette direction, enfin, en vue d'une réunion plus complète des églises, même si déjà elles ont fait des pas très importants les unes vers les autres. D'ailleurs, le Canada a cette chance cette année d'avoir à Vancouver, à l'été prochain, la réunion du Conseil œcuménique des églises. En principe, ce sont les églises protestantes toutes ensemble, mais l'église catholique est largement présente aussi. Et je crois que des réunions de ce genre la réflexion théologique, la vie commune. Et puis ce qu'on essaye d'en faire passer ensuite dans, comme on dit, à la base, enfin, dès les communautés locales. Je pense que tout ça est extrêmement important pour rapprocher progressivement les chrétiens. Pour ma part, si vous voulez, je me suis donné deux règles de conduite. Fidélité à mon Église. On ne marchande pas dans ce domaine. Je serais tenté de dire fidélité intelligente. Au fond, qu'est-ce qui constitue vraiment mon Église? Et qu'est-ce qui est apport simplement de coutumes qui sont contestables? Qu'est-ce qui est scorie laissée par l'histoire et par les siècles? Et qui n'est pas l'essentiel de mon Église? Et ensuite, dans cette attitude, ouvrir très largement le dialogue avec les autres, en essayant d'abord de les comprendre. Nous avons tellement de préjugés. De voir tout le chemin qu'on peut faire ensemble. Et généralement, on va beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Et puis là où vraiment des divergences s'accusent, d'essayer déjà de tracer des pistes quand même qui permettront de franchir cet obstacle nouveau. Et le tout en priant beaucoup, parce que j'y crois aussi.
Mais nous parlons des églises, c'est-à-dire donc d'une certaine façon des institutions, ou si on prenait un langage un peu plus vulgaire, des grosses compagnies, n'est-ce pas? Des grosses compagnies. Si on parlait de ces hommes et de ces femmes qui, par exemple, à Autun ou à Thésée, puisque c'est chez vous, n'est-ce pas, sont chrétiens, mais les uns se disant protestants et les autres se disant catholiques, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble de leur foi commune, de leur adhésion commune au Christ, de façon pratique, de façon aussi concrète que vous l'avez fait tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les mariages? Et disons, par exemple, accepteriez-vous que moi, prêtre catholique, j'aille communier à un office protestant de Thésée?
Je vous répondrai que je demanderai à ce moment-là un certain discernement. Si c'est uniquement par snobisme, si c'est uniquement pour avoir l'air de narguer mon Église en disant « ça vous plaît pas, je le fais quand même ». Alors là, je ne suis pas d'accord. Hein. Vous me dites au contraire, je suis en amitié avec Thésée, j'ai prié avec ces moines, j'ai réfléchi avec eux. Je suis là au moment où ils célèbrent la scène. En mon âme et conscience, je vais communier avec eux. Alors là, je serai d'accord. Vous voyez, les choses ne sont pas indistinctes, à mon avis. Il y a toujours un discernement à exercer. Et dans la vie écuménique qui me passionne, ça a été une des clés, je peux dire, de ma vie spirituelle et de ma vie d'évêque, je crois avoir toujours essayé, justement, de saisir les situations concrètes une par une. Il n'y a pas de norme absolue, si vous voulez, qui fasse dire qu'on va faire n'importe quoi ou qu'on va interdire tout. Le tout ou rien, j'ai horreur de ça. Parce que précisément, l'homme ou la femme, ce n'est pas des tout ou rien. C'est des êtres de chair qui ont leur histoire, qui ont leur environnement, qui ont leur contact. Et c'est à partir de là qu'on doit juger. Alors, pas de réponse toute faite. Okay. Je peux vous dire, par exemple, je ne crois pas être indiscret à leur égard en disant que un certain nombre de frères de Thésée reçoivent l'Eucharistie dans l'Église catholique, mais j'ajoute, comme un exemple, qu'ils ne l'ont fait qu'en plein accord avec moi, et qu'ils ont attendu ce jour-là.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir, je ne sais pas, ce Thésée, écharde, ou au contraire, écharde dans le pied d'un évêque, ou au contraire, possibilité d'ouverture?
Non, très grande joie, très grande joie. Il y a dans Thésée deux éléments, si vous voulez, qui me réjouissent beaucoup. D'une part, le témoignage que donne une communauté interconfessionnelle, internationale, pas facile à vivre, hein, et ça se vit, et bien, et depuis 40 ans. Et puis d'autre part, quand le moment est venu, il y a maintenant une vingtaine d'années, cet apport considérable de jeunes. Pourquoi viennent-ils? Ils viennent parce qu'ils voient des hommes unis dans leur diversité, déjà témoins d'une certaine unité, si vous voulez, et des hommes qui prient et qui les accueillent. Vous savez autant que moi combien les jeunes souhaitent être écoutés. À Thésée, on les écoute. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et puis en même temps, on prie avec eux, une prière souvent très austère. Moi, j'avoue que j'admire, quand j'y participe, la tenue, le silence qui règne dans une prière qui n'est pas, comment dirais-je, tellement facile. Enfin. Et puis en même temps, cette volonté qui répond aussi beaucoup aux aspirations des jeunes de réfléchir à des engagements possibles. Un des mots-clés de Thésée, c'est lutte et contemplation. Contemplation, là, c'est le temps de la prière, de la réflexion, et puis lutte, parce qu'il faut lutter pour un monde meilleur, pour plus de justice, pour l'homme, etc.
Monseigneur, nous avons parlé des divorcés, de leur le remariage, de leur vie chrétienne. On parlait de Thésée. Il me reste une minute et demie, une minute 45. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est au fond d'Armand le Bourgeois. Qu'est-ce qui fait qu'Armand le Bourgeois est prêtre, est évêque et qu'il est ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez me dire ça?
Si je veux vous dire ce qui m'anime quoi, dans mon ministère de prêtre autrefois, et toujours de prêtre, d'évêque aujourd'hui, c'est une volonté d'ouvrir mon Église. Qu'elle ne soit pas une espèce de forteresse qui, au besoin, reçoit les gens à travers un pont-levis, ou à l'inverse, envoie des obus à l'extérieur.
Ou qui se sent assiégé.
Voilà, qui se sent assiégé, tout à fait. Qu'elle soit au contraire une large maison. Il y a dans l'Évangile cette phrase, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Alors moi, j'essaye d'ouvrir des portes et des fenêtres pour que chacun trouve sa place. Finalement, c'est ça.
Et à quel prix? À quel prix pour vous et à quel prix pour ceux qui vont y trouver une place?
Pour moi, au prix de beaucoup de joie, d'abord. Et puis en même temps, avec la conscience que je crois exercer la responsabilité qui m'a été confiée. C'est toujours comme ça que je l'ai conçue. Et pour les autres, me semble-t-il, au moins un certain visage de l'Église. Même si vous voulez, ils ne profitent pas de ces demeures ouvertes, ils savent qu'elles peuvent être ouvertes.
Mais pourquoi, Monseigneur, alors que vous me dites vouloir, et je pense que beaucoup d'autres évêques me disent même, vouloir ouvrir les portes de l'Église, pourquoi semble-t-il que cette Église soit en train, tout au moins sociologiquement, de se vider?
Je me suis souvent posé la question moi-même. Je pense que pour une part, c'est que ce nouveau visage de l'Église, voulu par le Concile Vatican II, par exemple, n'est pas encore assez transparent. Et que beaucoup, surtout des adultes, si vous voulez, et à la suite d'eux un certain nombre de jeunes, restent sur des images d'autrefois, sur une église qui ne comprend pas. Je crois qu'il faut un certain temps, vous savez comme moi qu'en sociologie tout est long. Mais ce que je vois en même temps, je parle au moins dans le contexte français, et certainement chez vous, c'est des surgissements. Des jeunes qui se mettent en route, des groupes qui se constituent, pour une église assez différente, mais qui est l'église de Jésus-Christ.
Monseigneur le Bourgeois, je vous remercie.